Bonjour à tous. Au Nicaragua, la médiation de l'Église a pour conséquence immédiate l'arrêt des violences. Elle reprend cette médiation dans quelques heures. Précision dans un instant de Sarah Petitbon. Les douanes françaises passent à l'acte dans le Darknet et démantèlent l'une des plus importantes plateformes illégales actives dans le pays. Explication de Sarah Guibaudot. Autolib, système de voitures en autopartage en sursis, le groupe Bolloré demande 233 millions d'arriérés au syndicat gestionnaire qui s'apprête à résilier le contrat établi en 2011. Dossier suivi par David Ravier. Et puis la Bulle Écho nous plonge ce samedi dans les complexités du fonctionnement de la Banque Centrale Européenne. Bulle Écho signé Marie Viennot. Dans quelques heures, les représentants de l'Alliance citoyenne et du clan Ortega devraient reprendre des discussions menées par la conférence épiscopale nicaraguayenne, les reprendre sur les bases acquises hier. Et elles sont non négligeables en cela qu'elles conduisent à la levée des barrages par des détracteurs du régime, lequel s'est engagé à ne plus ouvrir le feu sur les manifestants. L'on dénombre, il faut le rappeler, 170 morts depuis le 18 avril dernier. Bonjour Sarah Petitbon.
Bonjour Mathieu, bonjour
Sarah,
à tous.
Entrons avec vous dans le détail de ce qu'a donné cette médiation de l'Église.
La médiation, cette médiation très de l'Église, très active depuis le début du conflit, n'aura finalement pas été vaine. C'était pourtant mal parti. Les discussions précédentes avaient toutes échoué. Mais à la surprise générale, le gouvernement nicaraguayen et l'opposition sont donc tombés d'accord cette nuit sur un certain nombre de points. Premier d'entre eux, le président Ortega accède à la demande des manifestants d'autoriser des observateurs des droits de l'homme à venir enquêter sur les violences qui ont fait, vous l'avez dit, plus de 170 morts, mais aussi 1300 blessés en deux mois. Devrait aussi être créée une commission de vérification et de sécurité composée de membres du gouvernement, de l'Alliance citoyenne, le parti d'opposition, de l'Église, mais aussi d'observateurs internationaux. Cette commission sera chargée de vérifier que le retour au calme est bien effectif dans les rues du pays. En échange, les représentants de l'opposition acceptent de mettre en place un plan visant à lever les blocages qui entravent toujours les routes du pays. De leur côté, les évêques médiateurs ont également demandé au président Ortega d'avancer les élections générales initialement prévues dans 3 ans à l'année prochaine, en 2019. Mais le président n'a pour le moment pas accédé à cette demande. C'est là pourtant l'une des principales revendications des manifestants qui réclament le départ de ce président de 72 ans au pouvoir depuis 11 ans. La tension reste donc très forte entre les deux camps. Hier, pendant les discussions, des affrontements étaient signalés dans la capitale Managua. Les réunions de concertation entre le gouvernement et l'opposition doivent se poursuivre aujourd'hui.
Merci à vous, Sarah Petitbon. Au Mexique, 6 policiers abattus hier dans l'état de Puebla, une région ravagée par les gangs actifs dans le trafic de drogue, le vol de pétrole et le kidnapping. L'oléoduc de la compagnie d'État, Pemex, est régulièrement pillé et les forces de police ne sont pas toujours exemplaires. En mai dernier, 119 policiers de la Puebla ont été relevés de leurs fonctions, soupçonnés de collusion avec des voleurs. L'étau se resserre sur les effectifs houthis positionnés sur le site yéménite d'Odeida, le principal port du pays. Les forces de la coalition formées par l'Arabie Saoudite sont sur le point de prendre le contrôle de l'aéroport de la ville. Les ONG craignent le pire. 70% de l'aide humanitaire transite par le port d'Odeida. Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini a, comme il le fit il y a 6 jours avec l'Aquarius, refusé ce matin l'accès au port italien à 2 navires battant pavillon des Pays-Bas avec à leur bord des réfugiés secourus au large des côtes libyennes. Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur et chef de file de la Ligue Formation d'extrême droite, déclare « Je le fais en ministre, en père, je le fais pour le bien de tous ». Fin de citation. En France, le ministre de l'économie se disait choqué en début de matinée par le montant des droits à la retraite négociés par l'ancien PDG de Carrefour, 13,17 millions d'euros pour Georges Plassat. Et bien en fin de matinée, le groupe Carrefour annonçait que ce dernier avait pris la décision de renoncer à l'application de la clause de non-concurrence qui lui avait été octroyée et donc au versement de l'indemnité de départ correspondante d'un montant de 3,9 millions d'euros. La résolution portant sur la rémunération de l'ancien PDG avait été voté hier à 68% à l'Assemblée Générale des Actionnaires de Carrefour. Les actionnaires n'ont pas été à la hauteur de la situation, ajoute le ministre Bruno Le Maire, qui demande enfin au patronat de prendre, je cite, des mesures fortes. Le système de voitures en autopartage Autolib, mis en place en Île-de-France, bat de l'aile, et cela ne date pas d'hier. La société, propriété du groupe Bolloré, réclame à la ville de Paris et aux communes adhérentes le paiement des 233 millions d'euros de dettes accumulées depuis le lancement du service en 2011, somme que les collectivités refusent de verser. Bonjour David Ravier.
Bonjour Mathieu.
David, accélération de ce dossier. L'on a appris hier que le syndicat Autolib Métropole annoncera jeudi prochain aux 98 communes qui le composent, dont Paris, de résilier le contrat conclu avec le groupe.
En effet, et ce dans le but d'éviter la casse. Pourtant, tout avait bien commencé. Quand Autolib arrive sur le marché en 2011, c'est la première solution automobile calquée sur le modèle de Vélib qui permet de se déplacer en voiture dans la ville pour pas cher. Si au départ, le groupe Bolloré parle de 50 000 abonnés pour atteindre l'équilibre financier, ce chiffre monte rapidement à 80 puis à 100 000 abonnés pour pouvoir rendre le système rentable. Aujourd'hui, avec plus de 130 000 abonnés, l'équilibre n'est toujours pas atteint. Et c'est pourquoi le groupe Bolloré demande à Paris et aux autres communes de lui verser 46 millions d'euros par an jusqu'à la fin du contrat en 2023 pour éponger la dette. Si on en est arrivé là, c'est parce que l'échec financier d'Autolib n'avait pas été prévu et que deux points importants avaient été sous-estimés. Premièrement, la rentabilité du service, qui avait été calculée en fonction du nombre de locations et de leur durée, à raison de deux locations d'une heure chacune par semaine et par abonné. Un chiffre qui ne sera jamais atteint puisque la durée moyenne d'un trajet en Autolib est actuellement d'une demi-heure. Deuxièmement, au lancement du service, personne n'avait prédit l'arrivée des VTC, d'Uber ou des locations de scooters électriques par exemple, qui allaient modifier les habitudes de déplacement et rendre moins pertinente le recours aux Autolib. Résultat, en 7 ans d'exploitation, la société accuse un déficit de 233 millions d'euros que personne n'a envie de payer, ce qui explique la possible rupture de contrat.
Merci de vos explications. David Ravier, il est 12h37, vous écoutez le journal de France Culture. Black End, c'était un forum. La main noire a été neutralisée à la faveur d'une vaste et néanmoins concertée opération des douanes françaises, annonce ce matin réalisée par le ministre des Comptes Publics, Gérald Darmanin. La main noire était l'une des plus importantes plateformes illégales actives en France sur le Darknet. Sarah Guibaudot.
L'administratrice n'a pas 30 ans, pas de casier judiciaire et même pas de grandes compétences en informatique. Mais cette Lilloise s'était taillé une réputation sur le darknet francophone en reprenant Black Hand, la main noire, un vaste forum accessible seulement pour les 3000 utilisateurs qui connaissent l'adresse et moyennant une petite cotisation. La main noire se présente presque comme un site de commerce classique. Vendeurs et acheteurs laissent des évaluations en fonction de la qualité de la marchandise et des délais de livraison, mais en paye en crypto-monnaie comme le bitcoin, et on achète des drogues surtout, des armes, des faux papiers ou des données de cartes bancaires volées. Les modérateurs touchaient des commissions en sécurisant les transactions. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la main noire était surveillée depuis un peu plus d'un an par la DNRED, le renseignement douanier, qui a réussi à percer l'anonymat du Darknet. En perquisitionnant chez l'administratrice, les ingénieurs de la douane ont trouvé les mots de passe. La plateforme est désormais fermée. Des juges d'instruction de Lille et la police judiciaire chargée de la cybercriminalité vont poursuivre l'enquête avec beaucoup de données informatiques à exploiter.
Les opposants à l'enfouissement des déchets radioactifs sont appelés à converger ce samedi à Bar-le-Duc, près de Bure. C'est à Bure que l'ANDRA développe son projet CIGEO qui consiste à enfouir pour des milliers d'années nos déchets nucléaires les plus radioactifs. Tout autre chose encore que ces déchets hautement radioactifs risquent d'imprégner, on l'a compris, durablement sols et sous-sols et déguiser bien des curiosités dans les siècles à venir, des curiosités d'archéologues professionnels et ou amateurs. Nous n'en sommes à date qu'à la 9e édition des journées de l'archéologie, des visites et des animations sont organisées partout en France ce week-end avec en vedette américaine les Antilles. Marie Fumholz.
À Paris, le ministère des Outre-mer ouvre ses jardins à l'archéologie antillaise. Des ateliers et des expositions y sont organisés toute la journée. Un moyen de mettre en valeur un pan méconnu de notre histoire. Pascal Ratier est responsable de la mise en place de ce village archéologique installé au ministère.
Ici en métropole, c'est la première fois qu'on le fait à Paris. Vraiment, je crois que ça c'est un point important. C'est pas seulement l'histoire des ultramarins, c'est l'histoire de tous les Français.
L'intérêt pour l'archéologie de ces territoires ultramarins est très récent. Les vestiges de la période coloniale, qui débute au XVIe siècle, commencent tout juste à être étudiés. Thomas Romond est archéologue, basé au centre de l'Institut National de Recherche Archéologique Préventive de Guadeloupe.
Une des grandes différences entre les Antilles et la métropole, c'est que l'archéologie se met en place en Guadeloupe, par exemple, véritablement dans les années 1990 et l'archéologie de l'époque coloniale dans les années 2000-2010. Donc c'est quelque chose qui est très très récent. Autant en métropole, donc l'archéologie date du 19e siècle, Il y a des schémas qui sont bien connus, et même si on continue à faire des découvertes, etc., etc., en Guadeloupe ou en Martinique, c'est pas rare de trouver des choses nouvelles et inédites.
L'archéologue travaille actuellement sur un cimetière de Fort-de-France. Découvert dernièrement, les ossements appartiennent probablement à des esclaves de la fin de l'époque précolombienne, mais les fouilles ne font que commencer.
La bulle économique, Marie Viennot.
Aujourd'hui, Marie Viennot, vous revenez sur la réunion de la Banque Centrale Européenne cette semaine, tout en posant la question suivante, vertigineuse à souhait. Que faire avec 2400 milliards d'euros? Bonjour.
Bonjour. Il y a 3 ans, à la COP21, les dirigeants du monde entier se demandaient comment réunir 100 milliards de dollars pour aider les pays en développement face au changement climatique. Aujourd'hui, ils ont trouvé à peine 10 milliards. Or, ces dernières années, les banques centrales des États-Unis, d'Angleterre, du Japon et de la zone euro auront dépensé, elles, plus de 7 000 milliards pour leurs emplettes sur les marchés financiers, ce qu'on a appelé leur programme de rachat d'actifs ou quantitative easing. Pourquoi est-ce si facile de trouver de l'argent pour acheter des produits financiers, mais pas pour lutter contre le réchauffement climatique? La réponse habituelle à cette question simple, c'est que les banques centrales ne font pas de politique. Elles sont indépendantes et leurs actions sont censées être neutres et ne favoriser aucun agent économique. Mais ça, c'était avant la crise. Après la crise, toutes les banques centrales ont développé des mesures dites non conventionnelles, typiquement les programmes de rachat d'actifs, et ces mesures ont plus d'impact sur l'économie que n'en aura jamais la loi Pacte pour la croissance du gouvernement français. Voilà pourquoi cela vaut la peine de s'y attarder, surtout quand il y a 2400 milliards d'euros à la clé. 2400 milliards, c'est l'argent dépensé par la BCE pour son programme de rachat d'actifs, dont Mario Draghi, le président de la BCE, a annoncé la fin progressive cette semaine. 2400 milliards, c'est vraiment beaucoup d'argent. C'est 6 fois le budget annuel de l'État français. Mais pour une banque centrale, trouver l'argent, ce n'est pas un problème. Elle crée l'argent et l'argent devient réel quand elle le dépense. Les assureurs, fonds de pension ou banques qui ont vendu leurs titres financiers à la BCE ont bien encaissé l'argent. Rien de virtuel là-dedans. Cet argent devait permettre à ces agents financiers d'investir dans des projets plus risqués, de prêter davantage aux entreprises et aux ménages, et au final, les milliards banques centrales devaient ruisseler jusque dans l'économie réelle.
You know, baby, in the years I've been your central banker, and it's been good.
Quand on compare la croissance, le chômage et l'inflation avant et après ces programmes de rachat d'actifs, le bilan est bon. Rien à dire, tout va mieux. Quand on voit à quel point les taux d'intérêt auxquels empruntent les États de la zone euro ont baissé, rien à dire non plus. Et cela profite à tous les contribuables. Mais il y a eu aussi des effets indésirés. Quand il y a plus d'acheteurs pour un même bien, le prix augmente. C'est un principe de base. Alors quand toutes les banques centrales se sont mises à acheter des produits financiers, leur valeur a bondi. Or, qui a des produits financiers dans son portefeuille? Les plus fortunés. Les politiques de rachat d'actifs des banques centrales ont participé à la croissance des inégalités ces dernières années. Et ce n'est pas une ONG qui le dit, mais la Banque d'Angleterre, l'agence de notation Standard & Poor's et plusieurs études conduites par des économistes. Les riches sont les premiers à bénéficier des rachats d'actifs. Mario Draghi lui-même l'a reconnu devant le Parlement européen en février. Autrement dit, les mesures de la BCE ne sont plus neutres. Certains agents économiques en bénéficient plus que d'autres. Dès lors, pourquoi ne pas utiliser les ressources monétaires illimitées de la BCE pour des projets politiques, comme la lutte contre le réchauffement climatique? Bonne nouvelle, le Parlement européen le réclame officiellement depuis mai dernier et la Banque centrale européenne a accepté l'idée de participer aux réflexions sur le verdissement de son action. Malheureusement, ce changement profond et systémique du rôle de la BCE n'est pas à l'ordre du jour des travaux pour réformer la zone euro. Comme si 2400 milliards, ça n'était pas, excusez du peu, un pognon de dingue.
Ainsi se referme. Merci à vous, Marie Viennot. La bulle économique à retrouver sur franceculture.fr. Météo France annonce une après-midi nuageuse, temps gris et humide du Piémont pyrénéen, la plaine d'Alsace et sur les Hauts-de-France. Quelques pluies des Pays de la Loire à la Normandie, du soleil, du pourtour méditerranéen aux Alpes. Température maximale comprise entre 17 et 30 degrés. Édition préparée avec François-Charles Domergue à la technique, Pierrick Monsigny.